Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Je suis vraiment ravi de démarrer cette session.
Salut Sam. Oui, moi aussi, je suis prête à plonger là-dedans.
Alors, le concept ici, il est super simple. On prend une pile de sources complexes, ça peut être des articles, des notes de recherche, des conférences, et on en extrait vraiment la quintessence.
Ouais, exactement. L'objectif, c'est d'offrir un raccourci direct pour être super bien informé.
C'est ça. Avec juste ce qu'il faut de recul pour transformer une masse d'informations un peu indigeste en véritable moment de clarté.
Et pour le coup, la plongée d'aujourd'hui, on a un document source qui va sérieusement bousculer nos habitudes de lecture.
Oh que oui! Il s'agit des notes d'une conférence académique vraiment fascinante, donnée par le docteur John Walton.
Absolument. C'est sa troisième session sur le livre de Job, en fait.
Ouais, et elle est axée spécifiquement sur la façon dont ce texte antique fonctionne en tant que livre d'autorité et d'inspiration.
Et c'est un point de départ fantastique, tu sais. Parce que le docteur Walton, il se contente pas de répéter ce qui a déjà été dit sur ce texte vieux de plusieurs millénaires.
C'est clair. Il s'attaque de front à un problème structurel que la plupart des lecteurs préfèrent ignorer en général.
Ouais, parce que ça remet en question la définition même de ce qu'est un texte sacré pour beaucoup de gens.
C'est justement ce qui saute aux yeux dès les premières pages de ses notes. Walton y pose un dilemme incontournable.
Quel genre de dilemme ?
En général, quand on cherche une source de vérité, d'inspiration ou d'autorité, on s'attend à y trouver la vérité, quoi.
Logique, oui.
Si on achète un meuble suédois très complexe à monter, tu vois.
L'enfer du montage.
C'est ça. Et qu'on ouvre le manuel d'instruction officiel, on part du principe que les schémas sont corrects.
Complètement.
Or, Walton souligne que le livre de Job, c'est comme ouvrir ce manuel d'instruction et se rendre compte que, attention, 80% des étapes imprimées à l'intérieur sont délibérément fausses.
Waouh, 80%, c'est énorme.
C'est énorme. Les amis de Job parlent pendant des dizaines de chapitres en donnant de très mauvais conseils. L'antagoniste céleste du prologue, il ment carrément.
Ah ouais, l'adversaire.
Ouais. Et même Job, par moments, il prononce des choses inexactes.
Tu sais, l'analogie du manuel d'instruction, elle illustre vraiment parfaitement le malaise du lecteur moderne face à ça.
C'est très déstabilisant.
C'est ça. Et notre mission aujourd'hui, à travers l'analyse de cette conférence, c'est de déconstruire cette attente.
De changer notre perspective.
Exactement. Il va falloir redéfinir ce que signifient réellement les concepts d'inspiration et de vérité dans le contexte de la littérature de sagesse antique.
Parce que notre approche, l'approche littérale occidentale, elle nous conduit tout droit dans un mur ici.
Absolument. On ne peut pas lire ça comme un simple manuel technique.
Bon, décortiquons cela un peu.
Allons-y.
Parce que l'idée même qu'un texte puisse être inspiré tout en contenant une majorité de dialogues trompeurs, ça semble fondamentalement contradictoire.
Ouais, ça heurte le bon sens au premier abord.
Si on part du principe que l'inspiration, c'est une sorte de dictée divine, où chaque mot est une vérité absolue, le livre de Job s'effondre totalement.
Complètement.
Du coup, comment Walton résout-il cette tension conceptuelle ? Que veut dire le mot « inspiration » si le manuel est plein d'erreurs ?
La clé, elle réside dans la distinction entre la source du cadre narratif d'un côté...
Okay.
Et la véracité des propos tenus à l'intérieur de ce cadre de l'autre.
D'accord, c'est subtil.
Très subtil. Selon Walton, l'inspiration, ça signifie simplement que l'origine, l'architecte du livre, c'est Dieu.
C'est la structure qui est voulue.
Voilà, c'est ce que le Nouveau Testament désigne par l'expression « soufflé par Dieu ».
Le souffle divin.
Exactement. Mais attention, et c'est là que beaucoup de gens trébuchent, en fait.
Oui.
Cela ne signifie aucunement que Dieu a fait de la ventriloquie.
Ah, la ventriloquie, j'aime bien le terme.
Il n'a pas murmuré des théologies erronées dans les oreilles d'Éliphaz, de Tsophar ou de Bildad, juste pour les forcer à dire des mensonges.
Donc si je comprends bien, l'auteur divin construit la scène, il place les personnages, mais il laisse ces personnages exprimer leur propre vision du monde.
C'est exactement ça.
Même si ces visions sont hyper biaisées ou carrément toxiques par moments.
C'est l'idée centrale, ouais. L'autorité du livre, elle réside dans le fait qu'il pose les bonnes questions et offre un cadre super fiable pour explorer la sagesse.
Et non pas des réponses toutes faites.
Voilà. L'autorité, selon Walton, ça signifie que le livre donne des informations fiables auxquelles on doit se soumettre. Mais la vérité, elle ne se trouve pas en isolant juste une phrase prononcée par l'un des amis de Job pour en faire un joli proverbe sur Instagram.
Ah oui, le fameux verset hors contexte.
Exactement. La vérité, elle se trouve dans le message de sagesse globale. En fait, les mauvaises pensées sont intégrées intentionnellement pour créer un contraste.
Un contraste pédagogique en quelque sorte.
C'est tout à fait ça. C'est en observant ces personnages s'enfoncer dans des raisonnements défectueux que le lecteur apprend, par opposition à discerner la véritable sagesse.
Mais attends, ça change complètement notre rôle de lecteur.
Bah oui.
On n'est plus censé être des élèves passifs qui surlignent de belles phrases inspirantes dans leur coin. On devient presque des détectives sous couverture, quoi.
J'adore cette image de détective.
On est infiltré dans le récit, on écoute les suspects parler et on doit analyser leurs arguments pour repérer les failles logiques ou théologiques.
C'est un vrai travail actif.
Et d'après ce que je lis dans les notes de Walton, ce travail de détective, il est loin d'être simple. Parce que les amis de Job, ils racontent pas des mensonges évidents ou grotesques.
Subtilité redoutable.
À quel point ?
Walton explique que les mensonges les plus efficaces, ce sont toujours ceux qui sont à un cheveu de la vérité.
À un cheveu, ouais.
Quand les amis de Job prennent la parole, leurs discours sont remplis de piété, ils semblent extrêmement orthodoxes, super logiques.
Ils ont l'air d'être les bons théologiens de l'époque.
Exactement. Ils s'appuient sur ce qu'on appelle souvent le principe de rétribution.
C'est quoi ça, pour clarifier ?
C'est l'idée que Dieu bénit toujours les justes et punit toujours les méchants, de manière immédiate et visible.
L'action-réaction.
Voilà, c'est une idée qui semble juste, qui est même partiellement vraie, dans d'autres contextes de la Bible d'ailleurs.
Les proverbes, par exemple ?
Ouais, tout à fait. Mais qui, si elle est appliquée de manière hyper rigide et universelle à la souffrance de Job, bah, ça devient un mensonge profond.
Et c'est redoutable parce qu'en tant que lecteur, on a presque envie d'être d'accord avec eux au début.
Bah, c'est rassurant comme logique.
Leur discours ressemble à s'y méprendre à de vraies sagesses religieuses. Et c'est pareil avec l'antagoniste céleste du prologue, non ?
L'adversaire, ouais.
Il se contente pas de dire simplement « Job est mauvais ». Il pose une question cynique, très fine. Il dit un truc du genre « Job craint-il Dieu pour rien ?»
Ouais, c'est très insidieux.
Il insinue que la relation entre l'humanité et le divin n'est qu'un vulgaire contrat commercial, en fait. Et ça aussi, c'est une distorsion très subtile de la réalité.
Une distorsion qui oblige le lecteur à examiner ses propres motivations.
Ça fait réfléchir sur soi-même.
Exactement. Et c'est pour ça que la source insiste tellement sur l'importance du message global.
De ne pas saucissonner le texte.
Voilà. Les interprètes fidèles de la littérature de sagesse, ils savent très bien qu'il faut jamais extraire un dialogue de son contexte narratif. Le livre, c'est un terrain d'entraînement.
Un simulateur.
C'est un simulateur complexe, conçu pour affûter notre esprit critique. Pour nous apprendre à repérer quand une vérité générale est utilisée de manière abusive pour condamner un innocent.
Et tu sais, c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Ah ouais ?
Parce qu'une fois qu'on a accepté que la vérité de Job ne réside pas dans la justesse littérale de chaque dialogue, bah, Walton nous emmène sur un terrain encore plus radical.
Lequel ?
Si le but du texte est de transmettre cette sagesse globale via un exercice de discernement, ça soulève la fameuse question de l'historicité.
Ah, le grand débat.
Est-ce que cette histoire, avec ses personnages précis et ses événements tragiques, a même eu besoin de se produire dans la réalité factuelle, avec des dates et des lieux, pour être considérée comme vraie et faire autorité ?
Tu sais, cela soulève une question importante sur la manière dont nous, modernes, concevons l'autorité d'un texte.
On est très attachés aux faits, nous ?
Absolument. Walton, il avance un argument super audacieux. Il dit que l'autorité du livre de Job n'est pas du tout conditionnée par son historicité.
Donc, faits divers ou fiction, peu importe.
Que Job a été un homme réel ayant vécu dans une zone géographique précise il y a des millénaires, ou qu'il soit une figure littéraire conçue pour explorer la condition humaine, mais ça change strictement rien au poids de la sagesse que le livre transmet.
C'est fort de dire ça.
Dans la littérature du Proche-Orient ancien, la vérité d'un texte ne se mesurait pas du tout à son exactitude journalistique, mais à sa capacité à révéler l'ordre cosmique et la nature de la réalité.
Mais c'est une notion super difficile à avaler aujourd'hui. On a vraiment cette tendance tenace à assimiler vrai à historiquement prouvé, quoi.
C'est notre prisme moderne.
Pour faire une analogie, tu sais, c'est un peu comme regarder un grand film dramatique précédé de la mention « inspiré de faits réels ».
Ah, le fameux carton au début du film.
Ouais, on sait très bien que le réalisateur a modifié des dialogues, qu'il a condensé des événements ou dramatisé une scène pour des raisons narratives.
Pour le rythme du film, ouais.
Pourtant, quand le film se termine, la vérité morale qu'il dégage sur le courage ou la nature de l'injustice, bah, elle nous percute de plein fouet. On dit pas « Ah, le film est faux parce que ce dialogue précis n'a jamais été enregistré sur bande ».
C'est un excellent exemple.
Sauf que lorsqu'il s'agit d'un texte spirituel, admettre qu'il fonctionne peut-être comme une construction littéraire non purement historique, est-ce que c'est pas prendre le risque de le dévaluer aux yeux d'un lecteur en quête de fondations solides ?
Seulement si ce lecteur a une définition très pauvre de ce qu'est une fondation solide, en fait.
C'est bien dit, ça.
Walton utilise une comparaison particulièrement éclairante avec les paraboles de Jésus pour désamorcer cette crainte.
Ah oui, les paraboles.
Prenons l'histoire du bon samaritain ou celle de l'enfant prodige.
Des classiques.
Ces récits, ils possèdent un cadre très réaliste. On parle de routes dangereuses, de brigands, d'héritages familiaux. Mais personne ne s'amuse à chercher des preuves archéologiques de l'auberge du bon samaritain pour valider le texte, tu vois ?
Ce serait absurde.
Les éléments narratifs, parfois même poussés à l'extrême, ce sont l'infrastructure qui permettent à la leçon de fonctionner. Alors bien que Walton ne dise pas que Job est une simple parabole, attention.
Oui, une nuance.
Il démontre que la vérité de la sagesse transcende le déroulement factuel des événements.
En d'autres termes, observer des faits bruts, ça rend pas sage.
Exactement.
Si on installe une caméra de surveillance et qu'on filme un accident de voiture, on a une vérité historique absolue, factuelle. La plaque d'immatriculation, l'heure exacte.
Ouais, on a les faits.
Mais on n'a aucune sagesse là-dedans. La sagesse nécessite une interprétation, une extraction des idées invisibles.
Il faut analyser le pourquoi du comment.
Voilà. Si on passe notre temps à se demander si les chameaux de Job ont vraiment été volés un mardi après-midi à 15h, on rate complètement la leçon spirituelle sur la justice divine.
T'as tout compris. Le fait historique, il est éphémère. La sagesse, elle, cherche des vérités profondes sur les dynamiques même de l'existence.
C'est ce qui traverse le temps.
L'autorité du livre, elle, repose sur les concepts qu'elle articule au-delà du récit immédiat. C'est précisément ce détachement de la stricte chronique factuelle qui permet au message d'être universel et intemporel.
Et ça parle à toutes les générations, du coup.
Les circonstances spécifiques de l'Antiquité disparaissent, mais le questionnement viscéral sur la manière de réagir face à l'incompréhensible, lui, ben, il demeure totalement intact aujourd'hui.
D'accord. Donc, récapitulons. Nous avons entre les mains un outil de discernement hyper complexe, dont l'autorité transcende la simple chronique historique. Le but est d'extraire une sagesse intemporelle.
On est d'accord.
Mais ça nous amène directement à la question centrale, la grande question. Que nous révèle exactement cette sagesse sur Dieu lui-même ?
Ah, la question de la révélation.
Ben oui, car l'attente naturelle, quand on lit un texte spirituel d'une telle ampleur, c'est d'obtenir une sorte de biographie intime de l'architecte divin, de comprendre ses motivations les plus secrètes, pourquoi il fait ce qu'il fait.
De rentrer dans sa tête, quoi.
C'est ça. Et là, Walton montre que le livre de Job refuse catégoriquement de nous donner ça. Quand Dieu répond enfin.
La révélation divine dans Job porte beaucoup plus sur le comment. Comment Dieu gère le cosmos, comment il agit ou choisit de ne pas agir, que sur le qui.
Sur son essence intime.
Voilà. Le livre ne fournit pas de description intime et exhaustive de l'esprit divin. Il y a un obstacle incontournable que Walton met vraiment en évidence.
C'est lequel ?
C'est la disproportion entre le créateur et la créature. Il est Dieu et l'humanité ne l'est pas.
Boum. C'est simple, mais c'est l'ultime rappel à l'humilité.
C'est vertigineux, oui.
L'illusion totale, ce serait de croire que l'on peut décortiquer la psychologie de Dieu comme on psychanalyserait un personnage de roman ou un collègue de bureau.
Et c'est une illusion hyper dangereuse, en fait.
Ah ouais ?
Si l'être humain se persuade de pouvoir saisir Dieu entièrement, d'avoir une explication rationnelle, une équation pour chaque tragédie ou chaque intervention, ben, il finit inévitablement par réduire le divin à sa propre dimension humaine.
Il le met dans une boîte ?
Il crée un Dieu à son image, gérable, prévisible, domestiqué. Et le livre de Job détruit complètement cette ambition.
Il brise la boîte.
Il affirme que les voies divines dépassent nos capacités cognitives et qu'il y aura toujours, et c'est important de l'accepter, une part de mystère insondable dans l'action de Dieu.
Tu sais, pour expliquer cela, Walton utilise une analogie qui m'a paru non seulement brillante, mais super utile pour clarifier cette idée de révélation partielle.
Tu penses à l'analogie universitaire.
Oh oui. Il compare la révélation biblique, et plus particulièrement ce texte de Job, au syllabus d'un professeur d'université.
Le fameux plan de cours, ouais.
C'est ça, le plan distribué aux étudiants le tout premier jour du semestre.
Si on relie cela à une perspective plus large, le syllabus, c'est vraiment l'outil parfait pour comprendre la relation entre l'autorité et le partenariat.
Comment ça ?
Ben, que trouve-t-on dans un plan de cours, typiquement ? On y trouve les objectifs du professeur, la structure du semestre, les critères d'évaluation et les attentes envers les étudiants.
Exactement. Et en lisant ce syllabus, l'étudiant peut déduire certaines choses sur le prof.
S'il donne beaucoup de projets d'équipe, on devine qu'il valorise la collaboration, par exemple.
Voilà. Ou si le calendrier des devoirs est chronométré à la minute près, on perçoit une personnalité très rigoureuse, très stricte.
Tout à fait.
Mais ce document de 3 ou 4 pages, il ne révèle absolument rien sur l'enfance du professeur, ses traumatismes personnels ou ce à quoi il pense avant de s'endormir le soir.
Sa vie privée reste privée.
Et le point crucial pour nous, c'est que l'étudiant n'a absolument pas besoin de ces informations super intimes pour réussir le cours et être un bon étudiant.
La comparaison est d'une grande justesse, tu sais. Selon l'analyse de Walton, Dieu nous fournit ce syllabus divin à travers les Écritures.
Le plan de cours cosmique.
Il nous donne juste assez d'informations sur ses plans pour le monde, sur la manière dont il gère l'ordre et le chaos, pour que nous puissions devenir des partenaires actifs.
On sait ce qu'on a à faire.
Nous avons les critères pour participer à son projet. Mais il n'a aucune obligation de nous fournir un rapport détaillé justifiant chacune de ses décisions au quotidien.
Le fameux « pourquoi de la souffrance ?»
Voilà. Il n'est pas obligé de répondre à toutes nos questions existentielles sur le « pourquoi on souffre ». Le livre de Job ne nous offre pas un pass VIP pour les coulisses de l'univers, en fait. Il nous donne le plan de cours pour savoir comment nous comporter dans l'amphithéâtre.
J'adore cette phrase. Et d'un côté, c'est incroyablement libérateur, parce que ça nous décharge du fardeau écrasant de devoir tout expliquer.
On n'est pas Dieu.
C'est ça. Mais d'un autre côté, ça nous confronte à un défi très pratique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre propre posture face à ce texte?
C'est là que ça se corse.
Ben oui. Maintenant qu'on a ce fameux syllabus, qu'on a compris qu'il exigeait un discernement de détective et qu'il ne nous donnait pas toutes les réponses cosmiques, comment sommes-nous censés réagir concrètement à son autorité?
Walton parle très clairement d'une exigence de soumission, tu sais.
Le mot qui fâche souvent.
Oui, mais il l'illustre avec une super analogie, celle des impôts gouvernementaux.
Les impôts, sympa.
La métaphore fiscale, elle sert à illustrer la nature indivisible de l'autorité. Walton souligne que l'on ne peut pas, en fait, accepter l'autorité divine à la carte.
C'est pas un buffet à volonté?
Exactement. Tout comme un citoyen ne peut pas écrire au centre des impôts en disant « j'apprécie l'entretien des autoroutes, donc je paye cette partie-là de mes impôts, mais je désapprouve totalement les dépenses militaires cette année, donc je retiens cette somme. »
Ils vont pas aimer la lettre.
Le système fonctionne pas comme ça, l'autorité de l'État s'impose globalement. Eh ben c'est pareil ici, une fois que l'on reconnaît l'autorité du texte sacré, on s'engage à s'y soumettre entièrement.
Y compris au passage qui nous heurte, qui nous trouble ou qui refuse de nous donner des réponses faciles.
C'est tout le package.
Mais attends, n'est-ce pas là le cœur d'une tension un peu vertigineuse? C'est une objection qui émerge supernaturellement quand on lit ces notes.
Vas-y, dis-moi.
D'un côté, le texte exige une soumission totale à son autorité, globale. Mais de l'autre, comme on l'a exploré au tout début, ce même texte requiert de nous un esprit critique hyper acéré, une vigilance de tous les instants pour ne pas gober les mensonges théologiques subtils des amis de Job.
C'est vrai que ça a l'air contradictoire.
C'est profondément paradoxal, voire épuisant de devoir se soumettre totalement à un manuel d'instruction tout en devant deviner en permanence quelles étapes sont piégées. Comment la soumission et l'esprit critique peuvent-ils coexister sans s'annuler mutuellement?
C'est l'objection la plus naturelle que l'on puisse faire. Mais tu sais, c'est justement en résolvant ce paradoxe que la pensée de Walton atteint vraiment son sommet.
Ah oui, ah.
La contradiction n'est qu'apparente. En fait, le problème vient de notre définition super moderne de la soumission. On la confond super souvent avec une obéissance aveugle.
Une forme de paresse intellectuelle où on dépose son cerveau à l'entrée de l'église ou de la bibliothèque.
C'est ça. Or, pour la littérature de sagesse biblique, c'est tout l'inverse. C'est précisément cet effort acharné de discernement qui constitue le véritable acte de soumission.
Waouh, ok. Donc, lutter avec le texte, douter, chercher, c'est obéir au texte.
Exactement. Accepter l'autorité de ce livre, ce n'est pas dire chaque ligne prononcée est une vérité littérale à appliquer, c'est accepter le défi que l'auteur divin nous lance à travers le texte.
On relève le gant.
C'est s'engager dans le processus de décodage, chercher la sagesse enfouie, refuser les réponses simplistes, et c'est le plus dur, accepter d'être inconfortable face au mystère de Dieu.
Faire cet effort intellectuel et spirituel rigoureux, c'est reconnaître la légitimité du syllabus divin, en fait.
C'est la forme la plus haute de soumission. Accepter d'être transformé par l'exercice complexe que le texte nous impose, plutôt que de chercher à le plier à nos propres attentes de lecteurs qui veulent des explications faciles.
Quel parcours fascinant! Franchement, si on résume la trajectoire de cette analyse aujourd'hui, le livre de Job se révèle être bien plus qu'un récit édifiant un peu poussiéreux sur la patience face à la souffrance.
Ah oui, c'est loin du cliché de Job sur son tas de cendres.
Ce n'est ni un simple documentaire historique, ni un recueil de citations réconfortantes prêtes à être encadrées dans le salon. C'est un véritable simulateur de vol intellectuel et spirituel.
J'aime beaucoup le terme de simulateur.
Il agit comme un plan de cours divin qui exige de ses lecteurs à la fois une capacité de discernement super aiguisée face aux fausses certitudes et une humilité vraiment profonde face à ce qui dépasse de loin notre compréhension humaine.
C'est un texte qui ne nous donne pas l'omniscience, on l'a vu, mais il nous équipe avec la sagesse nécessaire pour naviguer dans un monde fracturé, en partenariat avec une autorité transcendante.
Et cette réflexion sur le discernement face aux fausses certitudes, ça m'amène à une dernière pensée, un écho très contemporain, pour ceux qui nous écoutent, qui prolonge vraiment l'analyse de Walton.
Une application pratique alors ?
Ouais. On a beaucoup insisté sur le fait que les mensonges les plus redoutables dans le livre de Job, ce sont ceux de ses amis. Des mensonges qui sont, comme tu disais, à un cheveu de la vérité.
Presque vrai, mais terriblement faux dans le contexte.
Prononcés par des personnes qui se pensaient vraiment sages, qui utilisaient un vocabulaire religieux ou spirituel très correct, et qui venaient initialement avec de bonnes intentions pour consoler leurs potes en deuil.
Ils voulaient l'aider à la base.
Leur théorie sur la rétribution, l'idée que Job devait forcément avoir fait quelque chose de mal pour souffrir autant, c'était au fond une tentative désespérée de rationaliser le chaos, de trouver une équation logique à la douleur pour se rassurer eux-mêmes.
Une tentative d'enfermer le mystère de la souffrance dans une petite boîte prévisible. C'est tellement humain.
Exactement, et ça pousse irrémédiablement à regarder autour de nous aujourd'hui. On peut se demander légitimement combien de nos propres conseils modernes, offerts avec les meilleures intentions du monde à des proches qui traversent des épreuves indicibles, reproduisent ce même schéma.
C'est une excellente question. Les phrases toutes faites.
Lorsqu'on essaye à tout prix de trouver une cause, une leçon cachée, un grand plan cosmique ou une raison à la tragédie d'un proche, simplement pour apaiser notre propre angoisse face au non-sens de la souffrance.
On est terrifié par l'aléatoire.
Ouais, et du coup, ne sommes-nous pas, sans même le savoir, en train d'endosser les costumes d'Eliphaz, de Tsophar et de Bildad ? Ne sommes-nous pas en train de propager ces mêmes mensonges toxiques, déguisés en sagesse psychologique ou spirituelle moderne ?
Ça donne vraiment à réfléchir.
Peut-être que la plus grande leçon du livre de Job, au-delà de la théologie, c'est d'apprendre à s'asseoir dans les cendres avec ceux qui souffrent, en silence, sans jamais chercher à remplir ce silence avec nos propres illusions de contrôle.
C'est là qu'est la vraie sagesse. Être présent, sans chercher à tout expliquer.
Il est essentiel de continuer à questionner le monde, de lire au-delà des apparences, et de ne jamais, au grand jamais, cesser d'exercer notre esprit critique, surtout et avant tout face à nos propres certitudes. Sur ce, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de la connaissance.